apéro spécial Game 7.
Il y a 3-3. Comme ça.
Qu'on vous fait à New York, qu'on vous fait comme ça.
3-3.
Et on y est, et nous y sommes. Et mesdames et messieurs, on en avait parlé, on l'attendait, on avait même fait une potentielle projection lors de la preview. Est-ce que cette série entre Thunder et
Spurs... Toi, t'avais dit 4-3, toi. T'as dit 4-3 Thunder, toi. On verra en fin d'apéro si Bastien maintient son pronostic ou pas. Moi, j'avais dit 4-2 Spurs, donc par définition, ça passe plus.
On a un Game 7.
Ah, c'est bien.
On se demandait si on allait avoir 7 morceaux de cette rivalité. On l'a. La série, on en reparlera. Parce que le Game 1 a été extraordinaire. Mais après, ce n'était pas non plus jusqu'ici la série la plus extraordinaire.
Oui, c'est quand même pas
mal. Mais il y a quand même eu du très bon
jeu. Ok, bon, c'est vrai. Ah, que...
Il y avait une telle attente, si tu veux, après le Game 1, qu'on s'est dit « waouh » et tout.
Ouais, et puis il y a deux matchs qui sont un peu blow-out, dont ce Game 6, qui sont... Mais
attends, le niveau de jeu, par contre, est exceptionnel. Hein.
Ça reste... Deux équipes qui se rendent coup pour coup, qui gagnent chacune leur tour.
Je trouve qu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe hors basket sur cette série. Moi, je sais pas toi, mais
hors
moi,
basket,
c'est un peu affecté.
C'est-à-dire
que c'était souvent machin qui flop, l'autre qui tombe, les
ratios du basket. On a parlé de l'arbitrage, mais ça reste le terrain, l'arbitrage.
Tu vois ce que je veux dire.
Non, attends, c'est pas les.
Je trouve que sur les physionomies de match et la façon dont on a parlé, c'était un peu compliqué parfois parce que ça fait partie en effet du sport. Mais je trouvais que parfois le discours allait un petit peu trop, soit sur les flops, soit sur l'arbitrage, soit sur le machin. Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de choses à devoir discuter.
Oui, non.
De le faire aussi.
C'est sûr. Mais je veux dire. C'est pas les discussions que je préfère forcément. En revanche, je pense qu'elles sont inévitables. Et pour moi, elles font partie du terrain.
Ouais,
l'arbitrage, l'arbitre, d'ailleurs, il est sur le terrain. On le voit bien. Puisqu'une fois sur deux, l'arbitre essaye d'être la star lui-même du match. Donc,
j'ai vu les performances des joueurs.
Mais je suis d'accord. Et après, on a aussi beaucoup parlé tactique, défense, prise à deux, changement, ajustement et tout. Et encore heureux, parce que là, on a quand même une série où ça rigole pas. Niveau aléa et niveau obligation d'ajustement en cours de match ou entre les matchs pour les coachs. Voilà, par exemple, Daigneault a essayé de faire jouer Jalen Williams. Il l'a fait rentrer, il a joué quoi, 10 minutes. Bon, c'est pas prêt l'affaire, hein, malheureusement pour le Thunder. Mais tu vois, genre, voilà, on a beaucoup de choses comme ça. Harper, ça a l'air d'aller.
Ah, mais bien sûr, moi en soi, quand je dis de mon côté, perso, j'ai grave apprécié non seulement les choses dont on a discuté sur cette série, c'est que là, à l'approche du Game 7, j'espère qu'on aura l'occasion de profiter de ce match de la meilleure manière possible, notamment quand on l'a vu là sur le Game 1 et sur le Game 6. Alors évidemment, les physionomies ne sont pas les mêmes parce que le Game 1 c'est très serré, là le 6 c'est un peu plus une branlée, ma foi, on va en parler. Mais c'est vrai que ça a parlé nettement moins de sifflets, d'arbitrage, de qui va être le leader représentant avec les zèbres, et on a parlé un petit peu plus de ce qui se passe sur le parquet. Et j'espère.
Tu parles du game 6 là.
Ouais, tout à fait. J'espère que le game 7 va être dans cette continuité là parce que on a une super confrontation entre ces deux.
Je suis d'accord avec toi, mais tu vois, ça dépend du match. Je veux dire par là, genre, ce game 6 là, déjà, la deuxième mi-temps, on va en parler, c'est pas serré hein, parce que le troisième quart des Spurs, bonjour, tu vois. Du coup, tu t'enlèves le côté, comme il y a eu au game 5, une décision arbitrale très contestable, voire fausse, à un moment où tout le monde a la sensation que les Spurs ont un momentum et vont revenir. Derrière, il y a 4 lancers de compensation quasi totale, et moi je déteste ça et tout. Enfin, tu vois, genre, dans un match où tu dis en gros, t'as la tentation de te dire un arbitre, il a fait basculer quelque chose. Alors que là, dans ce game 6, je dis pas que l'arbitrage a été parfait, je dis juste que il n'y a pas de grosse erreur ultra visible et tout comme ça. Deux, en deuxième mi-temps, même une erreur d'arbitrage, je pense que de toute façon, il y a eu un moment, il y a eu un run des Spurs tellement violent que... Donc je veux dire, c'est aussi le contexte qui, malheureusement ou heureusement, de temps en temps, nous guide à parler de ce qui s'est passé sur le terrain.
J'espère que samedi soir, on va se régaler et qu'on parlera justement de ce qui va se passer, évidemment sur le parquet, mais chez les joueurs. C'est samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. Victoire des Spurs hier soir au Game 6. On avait vu le Thunder faire le travail à domicile au Game 5. On en a parlé longuement, à la fois de la contre-performance de Wemby, les difficultés des Spurs dans cette rencontre, le bon boulot du supporting cast du Thunder et, comme tu l'as dit là, la fin de troisième quart-temps. C'était le rendez-vous immanquable pour San Antonio. Et en amont de cette rencontre, on avait discuté, toi et moi, de quelques points qu'il fallait surveiller de très près. À commencer évidemment par la performance de Wemby, la façon dont il allait approcher ce match, le Game 6. Est-ce qu'on allait retrouver l'agressivité de Victor ? Est-ce que le groupe allait suivre ? Est-ce que le Thunder, dont on avait parlé en fin de vidéo sur le Game 5, allait dire non, mais la série, on la termine à San Antonio ? Et c'est vrai qu'en fait, démarrons si ça te va chronologiquement.
Vas-y.
Dès l'entame de match, on a très vite senti que du côté de Wemby en premier lieu et des Spurs au global, on allait bien servir la bête. Il allait être bien agressif, le pépère.
Agressivité de Victor Wembanyama qui rentre ses trois premiers tirs. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il est à 8 points. Il est à 3 sur 3 quand il est à 8 points. Il a 2, 3 points, 2 points.
Et ça tire de loin, exactement.
Et ça tire de loin tout de suite d'entrée. Agressivité des copains aussi. Champagny, agressif d'entrée de match. Devin Vassell, c'est
petit PG Washington.
Mieux que ça.
Ouais, bien sûr, mais dans le rôle, tu sais, de joueur clé, glue guy, défensif, qui met tout le temps des bons shoots.
Il s'est raté comme pas mal de Spurs sur le Game 5. Et là, sur le Game 6, vous fiez pas forcément à la box score. Je sais pas combien de points il a, Devin Vassell, et combien de contre ou de rebonds et tout. C'est plus dans l'impact, dans les petites choses, les petits ballons volés, le 3 points qu'il faut faire tomber, qui tombe et tout. C'est plus là-dedans. Donc, tout ça, toute cette agressivité, j'aime bien le début de match de Castle aussi, qui évidemment amène des choses et tout. Et donc, oui, les Spurs, entrée de match, bien préparé mentalement, prêt. Moi, c'était une des grandes questions. Genre, tu vois, c'est une équipe jeune. Il y a beaucoup de mecs du 5 majeur. En fait, dans le 5 majeur, j'allais dire, à part Fox.
Il n'y a personne qui a connu l'an 2000.
À part Fox, personne n'a joué les playoffs avant cette année.
Il n'y a personne qui a connu l'an 2000 quasi. Hein. Enfin, je veux dire, la plupart des mecs, ils sont nés en 2000, 2001.
Des jeunes et tout machin. Et préparation bien. Prêt pour le défi que le Thunder va t'imposer, c'est-à-dire que t'es en match à élimination. Alors t'es chez toi, mais t'es en match à élimination, c'est-à-dire si le champion te bat, t'es fini. Ben, ils n'ont pas eu peur et ils ont pris le match par le bon bout. C'est-à-dire appliqué tactiquement et bien agressif et en attaque, pas peur de côté. Genre, les tirs, ils sont là, on les prend. Wemby a montré l'exemple, mais Champagny dans son corner, Vassell, tu vois, genre, ils sont là, on les prend. On les met ou pas, je sais pas, mais on est dans le plan de jeu, on y va, on les prend.
Absolument.
C'est bien.
Dans ce range-là, il en a parlé parce qu'il a reçu un coup de téléphone. Je sais pas à quoi ça ressemble de se balader un jour et d'avoir sur son téléphone appel entrant Greg Popovich. Mais il y a Dylan Harper qui a reçu un coup de téléphone de El Refe.
Dylan Harper.
C'est pour ça que je suis obligé d'en parler parce que là, Dylan Harper, on savait qu'il y avait des difficultés physiques, que pour lui, rookie, il allait se taper le match le plus important de sa carrière dos au mur avant les vacances. T'as Greg Popovich notamment qui l'appelle, il en a parlé, qui lui dit « Là, il faut faire le boulot ». Ça n'a pas été une thèse, ça n'a pas été entrée plat dessert, c'est littéralement, il lui a dit « Là, il faut que tu fasses le boulot, donc merci, reste qui tu es, sois agressif ». Il démarre le match dans la continuité de ce que tu dis. Dès le premier quart-temps, transition, 3 points. Et j'allais revenir avec.
Il n'y a pas d'erreur. Non, c'est quoi le projet de Dylan Harper ? C'est de mettre Ginobili dans le rétro en sophomore ou quoi ? Non, mais sans déconner.
On va se calmer.
Franchement, il fait des playoffs de rookie.
Mais non, mais il est extraordinaire. Wow. Il est extraordinaire. C'est une des plus grandes nouvelles d'ailleurs des Spurs sur ce match, c'est que Dylan Harper est à son niveau. C'est-à-dire
c'est
un joueur d'une agressivité exceptionnelle. Beaucoup de très bons choix.
Il y a très peu d'erreurs. Alors qu'il prend des risques, il fait plein de trucs compliqués. Oui, je veux dire, c'est pas catch and shoot, tu vois.
Il y en a eu un à 3 points dès le premier quart.
Oui, bien sûr, mais je veux dire, tu vois, genre, il a le ballon, il a des gros défenseurs sur lui qui l'agressent.
Transition,
parfois,
il est
à la limite de la perdre. Il va en drive. Ah, il y a Holmgren. Attends, je vais quand même y aller. Enfin, non, franchement. Mais...
Rookie qui rentre évidemment sur le terrain dans
le meilleur arrière de ce match.
Oui, bien sûr.
Non, mais attends. Le rookie, ouais. Dylan Harper. Il y a Stephen Castle sur le terrain quand même. Attention.
Il envoie.
Il y a Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Il y a Alex Caruso. Il y a des bons joueurs. Enfin, tu vois, il y a Kesson Wallace. Bien, Kesson Wallace. Bon match encore. Et le meilleur arrière sur le terrain, c'est Dylan Harper. Ouais. Oh là là, dis donc.
Et en fait, dans le niveau de cette agressivité, on avait parlé, je crois que c'était au game 4. Parce que San Antonio mène 1-0, OKC gagne les deux suivants, et ensuite t'as ce match un peu pétoche à 2-1.
Chez toi.
Où en fait tu remportes le Game 4. Et on avait parlé dans le débrief de Mitch Johnson qui fait des énormes moulinets. On y va. Le rythme de ce début de match là, les Spurs, combien d'attaques ils ont sur la défense placée du Thunder? Ils ont vraiment galopé, mis les deux pieds sur l'accélérateur. Je voulais en parler avec toi parce que c'est une des clés, notamment on va voir sur le Game 7 dont on va reparler, c'est ce rythme de jeu des Spurs, c'est le jour et la nuit entre le 5 et le 6.
Ouais, la réussite du coup qui va avec, évidemment.
Ah bah là, il s'était culotté, hein.
Mais surtout, il y a deux choses à voir là-dedans. Il y a la première, c'est que tu te crées un tout petit peu plus de shoot facile en transition, même si le repli du Thunder, c'est quelque chose. Hein. C'est un délire quand même. Et surtout, tu t'évites d'attaquer sur la défense placée du Thunder, qui est pas la meilleure de la ligue, quoi. Genre, ultra chiante, quoi. Voilà. Donc, tu t'évites au maximum, tu te crées des tirs un peu plus ouverts, des petits drives. Parfois, Victor, tu peux le servir en dessous parce qu'il a un mec plus petit. Et quand même, bah, s'il la reçoit en dessous avec un mec plus petit et qu'il est à 2 mètres du cercle, il y a quand même souvent un panier ou un tir dangereux et tout. Enfin, donc, ça, évidemment, clairement, le Mitch Johnson qui y va, c'est, ça paraît évident. Ben, c'est pas si simple à faire que ça. Faut sécuriser le rebond. Et ensuite, faut trouver les bonnes personnes. Je pense qu'il y a aussi un côté où, là-dessus, ils sont bien organisés. Qui que ce soit qui prend le rebond, alors si c'est Castle ou Harper qui prend le rebond, les types montent la balle. Mais même eux, quand ils voient en avant de eux un Wemby ou un Vassell, voilà, vas-y, je te sers tout de suite pour faire avancer la balle.
Des énormes outlets pour essayer justement de percer la défense du Thunder en transition. Dans ce premier quart, qui va très bien se terminer pour les Spurs, puisque ça donne le ton tout de suite, hein, il y a 35 à 22, il y a plus 13 pour les Spurs dans le premier quart. Il y a un aspect aussi dont je voulais parler avec toi, c'est on sait tout au long de cette série que les minutes sans Wemby étaient un vrai gros sujet pour les Spurs.
Oui.
On savait que c'était difficile pour Cornette d'exister, que parfois le 5 qui se retrouve sur le terrain avec Keldon, avec d'autres garçons, parfois avait du mal à devoir à tenir. Hier soir, c'est peut-être pour moi, c'est le meilleur match de la série des Spurs sur les non-Wemby minutes. Ils ont été, dès le premier quart énorme, ils poussent le lead alors que Wemby se repose.
C'est vrai. Et alors que dès que Wemby sort, tout de suite, le Thunder s'ajuste et va beaucoup plus au cercle.
Bah, tu vois, un fond de...
Normal.
Tout à fait.
Mais toutes les équipes sont pas aussi tactiques que le Thunder. Le Thunder, c'est complètement fou. Le mec pose son cul sur le banc, Wemby, bim, tout de suite, ça attaque
beaucoup
plus
au cercle.
Et tout
le monde, c'est vrai, Caruso est allé au
panier. Tactiquement, les mecs, tu sens que la préparation est folle. La première mi-temps, le premier quart est 13 Spurs, ils ont plus 12 ou 13 à la fin et tout. Il y a des gros tirs qui rentrent en fin de quart-temps et pas côté Thunder.
Oui.
Et tout, c'est bien défendu. Côté Spurs aussi, il faut le dire, tant que c'est que 22 points, le premier quart, hein, c'est quand même sérieux. Le deuxième quart est plus Thunder parce que même si l'écart un peu monte, reste à 12 là, côté Spurs, il y a plusieurs fois et ça recolle, et notamment en fin de quart où ils reviennent même à 5 points. Bon, il y a 7 à la mi-temps, mais ils reviennent à 5 points. Ils lâchent rien du tout, les types.
Ah là, moi, je t'avoue que j'étais devant le match en direct, j'avais les miquettes. Hein. C'est-à-dire que quand t'as le Thunder, après un tel run des Spurs, c'est-à-dire qu'offensivement, les mecs, pardon, on va en parler, mais Wemby, il a 22 points à la mi-temps.
En fait, les types sont à moins 5.
Et c'est ça. En fait, t'as 22 points de Wemby, t'es à 50% à 3 points, t'as Dylan Harper qui est en transition et tout.
En plus.
Et les types shootent mal et tu te dis, attends, avec tous ces efforts, on mène que de 6 points parce 7 que...
7 à la mi-temps, je crois.
C'est ça.
Et 60 à 53, je crois, la mi-temps. 60 à 53. Ouais c'est ça.
Fait. Il y a plus 7. Et en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je t'avoue, je me suis dit, il est encore à la portée des deux équipes ce match.
Ouais.
Tu l'as très bien dit, excellent Kesson Wallace qui nous fait là une première mi-temps énorme pour rentrer des très gros tirs. On a les apports, évidemment, de un petit peu de McCain en transition à 3 points. Tout de suite, temps mort de Mitch Johnson. On a 2-3 gars qui essayent justement aussi de contribuer plutôt en sortie de banc. Quand tu es à la pause.
Ouais.
Côté San Antonio, tu as fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire vraiment attaquer fort et scorer. Mais j'avoue que la défense des Spurs à la mi-temps ne me plaisait pas du tout. Et je crois que c'était aussi le cas du staff de San Antonio.
Oui, alors après, j'entends. Moi, je ne l'ai pas trouvé non plus. Je trouvais quand même assez bonne en première mi-temps. Mais il y a toujours mieux à faire. La preuve, ils vont faire beaucoup mieux dans le troisième quart. Je trouvais ça quand même assez bon. Ils se sont pris eux aussi des transitions avec quelques paniers faciles. C'est au-delà de la défense, c'est plus des efforts de repli ou des choses comme ça qui ont laissé quelques paniers faciles un peu au Thunder et tout. Mais oui, il y avait mieux à faire que cette première mi-temps, mais j'ai pas trouvé ça non plus catastrophiquement.
Non, je disais pas catastrophique.
Non, mais je veux dire, voilà quoi.
Sur les termes, il y a notamment quelques hustle plays. Devin Vassell qui se retrouve en 2 contre 1 face à Shai-Gilgeous Alexander et qui envoie des contests de malade à l'arceau. Mais c'est vrai que sur quelques moments où on l'a souvent dit, tu n'as pas de marge d'erreur face à ce Thunder.
Oui,
tu as
un stop fait du bien.
Tu as quelques replis qui sont un tout petit peu moins. Bon, parce que vu le rythme qu'ils envoient en attaque.
Quelques rotations aussi.
Quelques rotations, mais vu ce que tu envoies en transition en attaque, c'est compliqué quand même de galoper comme des malades. Et donc là-dessus, le Thunder fait payer. Et tu te retrouves avec en fait une équipe d'OKC qui a réussi à trouver des points un petit peu plus facilement. Dès le début du troisième quart, en fait, moi je me dis, si OKC fait, tu sais, un espèce de run comme ils sont capables de le faire là. Là, ça va commencer à jouer de la flûte de pan dans les rangées du stade des Spurs.
Non, mais t'as raison. Et d'ailleurs, c'est aussi l'occasion de noter quand même un point, parce qu'on parle énormément de la défense de ces deux équipes, mais il faut comprendre aussi le niveau offensif que ces deux équipes sont capables de fournir. Parfois, c'est pas toujours très beau et tout, mais le ballon, il circule quand même bien. T'as quand même plusieurs joueurs élites offensivement de chaque côté. Plusieurs. Ok, c'est pas son meilleur match, hein. C'est même l'un de ses moins bons, mais ça reste un joueur ultra élite offensivement. Jalen Williams, quand il est là, bon, et Jay Mitchell, là, le Thunder est très handicapé offensivement avec deux gars, ils arrivent quand même à scorer, tu vois. Ils ont beaucoup de mecs qui sont capables de rentrer des tirs et tout. Côté Spurs, on a vanté Dylan Harper. Dylan Harper est un joueur élite offensivement. Voilà. Victor Wembanyama et Castle sont capables d'être élite évidemment offensivement. Donc faut pas oublier que ces deux équipes ont aussi beaucoup d'arguments offensifs. Mais c'est là où... C'est pour ça que j'en parle, parce que je veux arriver à ce troisième quart où tu nous emmènes là, Bastien, où là, faut clairement... Tu as des trucs ratés côté Thunder, des tirs qui rentrent pas et tout, mais tu as la défense des Spurs qui reprend en deuxième mi-temps qui dit bonjour.
Le niveau défensif.
Oui. Ça va être un calvaire pour vous de mettre un point.
La vache. Le troisième quart défensif des Spurs, peut-être leur meilleur quart de la saison, en tout cas des deux côtés du terrain, parce qu'ils mettent un combien dans la tronche là ?
30 à 13.
32 à 13. Au secours.
Il y a un 20-0.
Il
y a un 20-0 dans la bouche du Thunder.
Ouais, ça arrive
en 2026.
Tout à fait. Et c'est vrai que défensivement, c'est ça que je voulais en fait mentionner par rapport à la première mi-temps, c'est que oui, la première mi-temps des Spurs défensivement n'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas catastrophique. Mais,
non, c'est pas catastrophique.
Mais le troisième quart, on bascule à un niveau monstrueux, exactement. Et du coup, c'est vrai que ça permet de lancer des transitions, d'exténuer le Thunder, de faire tourner le ballon à tout le monde, parce que si les gens regardent, se réveillent le matin et se disent « Ouais, il y a eu un 32 à 13 dans le troisième quart et Victor a fini avec 28 points », t'es en droit de te dire « Ah bah peut-être que l'autre, il a pris chaud et tout de fou malade ».
Même pas.
La deuxième mi-temps,
c'est
de
sa première mi-temps offensive qui est dingue, c'est pas son troisième quart.
Hein. Exactement.
Non, complètement.
Et on continue dans le non-Wemby Spurs, c'est-à-dire que ce troisième quart…
Il est sur le terrain pour la défense quand même.
Il est là pour la défense, mais il y a tout un stretch où il y a Luke Kornet qui est présent.
Oui, c'est
vrai. Et au global, les Spurs arrivent à faire péter l'écart alors que l'autre, il est en train de se poser sur le banc. Je me disais, bon, bah ce genre de match…
Et pour deux raisons. La première, c'est qu'ils étaient très concentrés, ils sont durs sur l'homme, ils sont jeunes, ils sont athlétiques, ils sont compliqués, c'est pas si simple de passer l'épaule, ils ont fait des bonnes prises à deux pour pourrir la soirée de Shai. Et la deuxième, tactiquement, l'application et la concentration défensive d'une équipe aussi jeune, à part le Thunder, en fait, ça n'existe pas. Genre, c'est pas une surprise si Lugansdort a eu je sais pas combien de 3 points et qu'il en a pas mis beaucoup. Hein. C'est parce qu'il était ciblé. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de cas où ça a préféré... Là, Caruso, il a moins eu de tirs ouverts parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de Caruso trop ouvert. Non, mais il l'aimait. Et donc, il a moins eu ouvert. Par contre, Lugansdort à 45 ou dans le corner... Si le close-out est un peu loin, on laisse pas Shai à mi-distance faire son petit boui-boui et tout seul trop. On vient, on aide. Et puis, bah oui, Lou Dort, vas-y. Tiens, Jalen Williams, il a pas l'air très chaud, bah tiens, qui shoot. Tu vois.
Et là,
et ce n'est pas tombé.
Pas de deuxième chance.
Non, pas de deuxième chance. Et ce n'est pas tombé dedans. Alors, ça aurait pu, hein, Lou Dort ou Jalen Williams, ils ont déjà montré qu'ils pouvaient en faire tomber. Mais en termes de stats, c'est eux qu'il faut laisser shooter, entre guillemets. C'est eux qu'il faut ouvrir.
Absolument, on n'a pas l'air you.
Tout a glissé. C'est-à-dire que ça défendait bien, ça lâchait pas les rebonds. Et en plus, les points faibles identifiés offensifs du Thunder ont été mis dans des situations de prendre des décisions ou les derniers tirs. Et ils n'ont pas réussi à le faire.
Absolument.
Et voilà.
Quand tu commences
32-13, mon pote.
C'est ça, 32-13. Quand tu commences à cumuler tous ces éléments qui ont rappelé les cauchemars du Game 4 aux fans du Thunder, hein. C'est-à-dire qu'ils sont à 8 sur 30 000 à 3 points sur le... Ils sont à 10 sur 40 à 3 points, c'est ça, 25% sur la rencontre. Ils avaient été très maladroits au Game 4. Donc,
10 sur 40, c'est... Ouais.
Je peux dire que quand ça a quitté la salle, ils étaient contents parce qu'il y aura encore beaucoup de mois qui vont passer avant de retourner dans la salle des Spurs hein, pour le Thunder.
Ah bah
donc
oui.
Là, t'es content parce que les deux derniers passages d'OKC dans cette salle avec les nonnes et Luke Kornet, c'est compliqué. Sur ce 20-0, l'écart explose. J'ai eu une demi-seconde de... Est-ce que cette équipe d'OKC est capable de revenir à 18, à 16, à 15, mais très très vite.
Pour moi, à la fin du troisième quart, c'était fini quand même.
On a vu, c'est ça. Dès la fin du troisième quart et le début du quatrième, notamment dans la rotation, c'est-à-dire que ça y est allé. Hein. On a commencé du côté de Deigno à se dire, bon, on va commencer à faire tourner tout le monde.
Il y a eu moins 25, hein, genre, moins 25, 26. Ouais, hein. Donc ça, ces Spurs-là, dans ce mood-là, chez eux, si tu leur remontes à moins 25, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi?
Ben, c'est ça. C'est que malheureusement, même avec ce genre d'équipe, ça n'arrive pas.
Non.
C'est-à-dire que même quand on a parlé, par exemple, d'une équipe des Cavs avec des joueurs d'expérience qui mènent, c'est autre chose, ils sont à l'extérieur hein, sur ce Game 1 face aux Knicks, qui mènent de 22 points mais qui s'en font remonter 22. Là, côté Spurs, t'as le sentiment que jamais ils allaient laisser un doute. Il y aura un Game 7. Du coup, tu te retrouves dans quasi un garbage time, hein, les 6 dernières minutes du match. On a fait jouer
les 12
dernières,
vraiment, pour moi, le quatrième quart, c'est un garbage.
Il y a tout le monde qui joue. Hein. Ouais, allons-y.
Ouais, on fouille au fond du banc. Quoi. Tiens, et... McLaughlin, tiens, bah vas-y,
bah, McLaughlin, on y va, hein, tout à fait. Lindy Waters rentre, mon frère.
C'est clair. Vas-y, Kelly Olynyk, tiens, fais-toi plaisir. Prends des tirs.
Et par rapport à l'agressivité des Spurs, qui vont donc, je rappelle pour ceux qui sont peut-être réveillés un petit peu tard, remporter ce match 118-91, et il y a vraiment 30 points d'écart sur cette rencontre hein, puisqu'on y est quasiment. Je sais pas si t'as vu la stat, je l'ai balancé en toute fin de soirée sur le compte Twitter. C'est la première fois depuis 2016 que le Thunder se retrouve sur tout un match sans avoir mené une seule fois au score.
Ah,
c'est-à-dire que tout du long, les Spurs qu'on attendait agressifs, les deux mains sur le volant, ils ont dit « Non mais attends, il va y avoir 2-0, mais vous allez courir après le score jusqu'à la fin du match. » Et
fort.
Ça, c'est très fort
c'est
que
très
des
fort.
Spurs.
D'ailleurs, on avait parlé de la grosse performance collective du Thunder au Game 5. Grosse performance collective des Spurs. T'as bien fait d'insister, les non-Wemby minutes, la défense, quelques joueurs de banc qui se distinguent et tout. On a vraiment deux équipes qui sont capables, dans les moments clés, de... faire en sorte que les stars puissent répondre, mais qui sont aussi capables de faire en sorte que collectivement l'équipe pose des problèmes quasi insolubles à l'équipe adverse. Du coup, extrêmement curieux de voir ce qui va se passer dans le match 7, puisque le Thunder, on l'a déjà dit avec Bastien, ne perd pas deux fois de suite. Hein. Voilà, ça n'existe pas en playoff. Le Thunder, ils ne perdent pas deux fois de suite, ça n'existe pas.
Exactement, la stat, pareil, je l'ai balancé sur Twitter. Les 10 derniers matchs de playoff perdus par le Thunder, il y a 10 victoires.
C'est une victoire
le
lendemain.
Il y a 10 victoires.
Enfin, pas le lendemain, mais le match d'après, pardon.
C'est ça.
Waouh.
Avant de faire la prévue
c'est
de ce Game 7,
c'est une stat de fou quand même.
C'est des malades. Bah là, c'est simple, c'est historique ce qui va se passer samedi. C'est soit le Thunder gagne ce Game 7, sort ses Spurs et prolonge cette série de on perd, on gagne. Soit les Spurs réalise un exploit légendaire, gagner à OKC, sortir le champion en titre, mettre fin à cette série qui est très violente. Hein.
Oh, les Spurs qui gagnent là-bas le 7.
Ah bah mon gars,
c'est un exploit.
Ah mais c'est extraordinaire. Avant de faire la prévue de ce match, j'ai trois derniers points à voir avec toi. La première, est-ce qu'on peut parler du match de Shai Gilgeous-Alexander qui vraiment pour le coup passe fort à côté. Très bien défendu par l'avant-garde de San Antonio. Hein. On a vu beaucoup de couvertures défensives différentes avec du Castle, du Carter Bryant.
J'ai bien aimé les aides.
Ouais.
Très vite, ça a varié. C'est-à-dire, temps en temps, on laisse Castle parce qu'on voit qu'il est en place. Temps en temps, bim, on ramène le gars de Lugansdorf ou le gars de Jalen Williams, hein, comme je disais tout à l'heure. En plus, en début de match, Shai était déjà bien serré par la défense de manière intelligente. Il a mis quelques tirs compliqués, mais il a raté aussi des choses entre guillemets facile, genre un lay-up un peu contesté là par Castle, bien contesté, mais genre chez contesté ou pas,
il
normalement il marque
là, tout
et tout ce genre de choses, tu vois. Après on l'a vu chercher, essayer de distribuer en pick and roll, il l'a plutôt bien fait, sauf que bah malheureusement pour lui ça se traduit pas forcément par beaucoup de passes décisives parce que les tirs rentrent pas, tombent pas. Faut pas oublier que ça joue beaucoup pour ce genre de joueur.
Oui.
C'est-à-dire que combien de passes décisives? Tu vois, seulement 4 passes décisives, honnêtement.
Ah, il peut en avoir 10. Hein.
Ouais. Et ça aurait pu changer aussi son match. C'est-à-dire que tu pèses différemment, tes tirs à toi rentrent pas. Mais c'est vrai que c'est un match très faible au tir pour Shai Gilgeous-Alexander. C'est rigolo parce que c'est Wemby qui était passé à côté au match 5. Là, c'est Shai qui passe à côté au match 6. Ces deux équipes, tout aussi fortes collectivement soient-elles, elles ont besoin que leur star performe.
Bah
comme
oui.
Toute grande équipe, attention. Hein. Mais voilà, et là, Shai a été mis dans la sauce et n'a pas su prendre le dessus.
C'est ça. Avant de parler justement de Victor de l'autre côté de la pièce, hein, tout petit passage sur un garçon dont on n'a pas trop mentionné le nom quand même, mais en amont de ce Game 7 où on va surveiller évidemment toutes les perfs et où il y a toujours des facteurs X qui sortent du lot, De'Aaron Fox, très compliqué. Très très compliqué le Game 6. Là,
Fox,
ça a été très très compliqué
là,
sur le 6.
Quand tu vois le niveau de Dylan Harper, je sais que bon, Dylan Harper est clairement un petit truc encore à la cuisse et tout, donc je pense que Mitch Johnson, c'est aussi pour ça qu'il le fait sortir du banc et tout. Mais genre limite, si au Game 7, Mitch Johnson dit vas-y, Harper Castle, qui est surpris? Non, attends, vraiment, je dis pas qu'il va le faire, je dis juste, c'est trop dur pour Fox, dur pour Harper. C'est quoi?
En fait, ce que je comprends, c'est que quand
Il défend mieux.
Oui, oui.
Et là, il attaque mieux sur ce match. Hein.
En fait, ce que je comprends, et c'est normal, hein, c'est qu'on est nombreux à voir ce qui se passe avec De'Aaron Fox et se dire, bon,
lui
quand tu vois ce qui se passe avec
Dylan
Harper, tout à fait. Fox n'est pas à 100%, et quand tu vois l'apport parfois de Dylan Harper, tu peux te dire, c'est maintenant, et c'est peut-être ça le move du futur, c'est que Dylan Harper et Stephen Castle sont les titus. Merci,
c'est
au revoir.
Sûr.
Tout à fait. Maintenant, ne pas oublier aussi que lorsque Stephen Castle, sur le match 1 et 2, distribue du ballon aux fans du Thunder, aux Bisons, aux machins, 20 ballons perdus sur les deux premiers matchs.
C'est parce qu'il n'y a pas Fox.
Le retour de
De'Aaron
Fox dans le 5 majeur, pour Stephen Castle, c'est le jour et la nuit. En termes de gestion de balle pure, hein, on en a parlé d'ailleurs sur un des matchs précédents gagnés par les Spurs, c'est que Fox, à la distribution et dans les rotations qu'il crée au KC, ça te permet d'avoir Dylan Harper en sortie de bord. Donc, je vois ce que
je
tu veux dire.
Pas, moi,
moi
que j'ai
plus,
dit.
Je le ferai pas.
Je le ferai pas, ouais, mais juste, je dis, là, sur ce genre de match, coup près. À élimination, Fox passe quand même au travers. Il fait quelques bons trucs, mais dans l'ensemble, c'est pas ouf. Et à côté de ça, t'as un rookie qui joue grosso modo au même poste, qui a la papade gauche, machin et tout, qui lui crève l'écran. Donc forcément, qui crève l'écran, et genre, c'est pas la première fois qu'il crève l'écran en playoff, hein, Dylan Harper, là, cette année, tu vois. Genre, donc, la question est légitime, surtout qu'après vont venir les histoires de salaire de Fox, de machin et tout. On le sait. Mais. Je veux pas dire il va changer son truc, je veux dire juste à un moment donné, si Mitch Johnson, même pour un match très important, commence à dire ah, j'ai besoin de plus d'Harper sur le terrain parce qu'on sait qu'OKC va mettre une pression de fou malade et je vais faire des rotations différentes et désolé et je dis pas forcément titulaire mais je veux bien voir les minutes.
Moi c'est plus les minutes là-dessus où je te suis. Si à la fin du Game 7 Harper a été sixième homme mais finit avec plus de minutes que De'Aaron Fox, ce scénario existe. Là, il y en a 26 pour Fox, il y en a 22 pour Harper.
En
et
fait,
ça aurait pu être kiff-kiff.
Tout à fait. Et ce qui m'embête là sur Fox, sur ce match 6, c'est, je suis d'accord, t'as raison, à côté de Castle, c'est bien, c'est un porteur de balle, Fox, il, mine de rien, il fait quand même assez attention à la balle, il la perd pas si facilement que ça.
Et puis, il a un client en défense, mec, de l'autre côté.
Voilà. Il est sécurisant pour Castle. Et aussi, un autre point, c'est que Fox a compris son rôle dans cette équipe. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il a pris. Combien de tirs il a pris? Il a quasiment rien rentré.
Il a 1 sur 9.
Voilà. Il a quasiment rien rentré, donc évidemment, ça, c'est relou. Il n'a pas pris forcément des mauvais tirs. C'est pas comme s'il avait croqué n'importe comment. Il a pris des trucs. Et à côté, il a distribué. Donc, oui, c'est pas un match efficace au tir, et ça, c'est frustrant. Mais j'irais pas jusqu'à dire que c'est un mauvais match, tu vois.
Non,
genre, enfin, il y a quand même non. Moi, je trouve
non,
pas.
C'est,
perso.
C'est pas un mauvais match, mais c'est d'une
un
maladresse.
Sur 9, 1 sur 9 au tir, c'est l'enfer.
C'est une maladresse au tir.
Mais les tirs pris sont pas minables.
Les tirs sont pas minables. Je pense que pour beaucoup de fans des Spurs qui regardent évidemment leur match, je pense que c'est un des aspects qu'on va surveiller sur le game set. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je sais, ça semble être 1500 ans avant Jésus-Christ, mais le match de Noël qui est remporté par les Spurs à OKC, le meilleur joueur du match, c'est Monsieur De'Aaron Fox. Donc il n'a pas peur aussi de la salle là-bas et je pense qu'il peut. C'est encore une fois les matchs où De'Aaron Fox se rappelle, on va voir comment ça se passe physiquement, mais se rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent rester devant lui dans la ligue quand il peut mettre les bons appuis. Toute la question, c'est de savoir s'il peut les mettre.
Ouais.
Mais lorsqu'il les met, en fait, s'il va à l'arceau et qu'il y a des bons contests, il y a un mec de 2m24 en bon offensif. Hein.
Tout
donc
à fait.
C'est aussi ça.
Si tu commences
à prendre plutôt des fadeaways à mi-distance.
Et même ces petits mid-range, tu sais, quand il va se glisser un peu autour de la ligne de lancer et qu'il arrive à faire son petit step back et tout, là ils sont pas tombés dedans.
Là ils sont pas tombés dedans.
Mais
ce sont des bons tirs.
Relativement bien contestés, mais c'est des tirs que Fox il sait mettre.
Tous les jours.
Donc vraiment.
Ouais.
En fait, c'est quoi? Oubliez mon truc là. Dylan Harper, il est très bien en 6ème homme.
En fait, c'est ça que je voulais dire.
Non, mais je suis d'accord.
C'est que si ça se trouve, en fait, Fox.
Je suis d'accord.
Il va être ciblé comme souvent hein, par les gens d'une manière générale pour les raisons salariales, pour les raisons d'expérience, pour les raisons de machin. Et puis parce que t'as un mec comme Dylan Harper dans le rétro, le mec, ça se voit que c'est le futur. Mais en tenue de balle, t'es quand même content d'avoir un mec comme ça parce que quand tu as du coup Castle qui peut se concentrer autant défensivement et avoir ce troisième quart où il allait chercher DN1 sur Jenny Williams, des machins, des trucs, bah pour Cassel, il dit les gars, merci pour ma cardio quoi. Le dernier gars dont je voulais parler forcément, c'est qu'on commence à le prendre pour acquis, mais terrible game 5 de Wemby. Pas de conférence de presse voulue par Victor, beaucoup de questions qu'on s'est posées.
Oh, on en avait parlé, moi ça m'allait. Hein.
Ouais.
Moi, le mec frustré, vénère, qui veut pas parler à la presse, je sais que c'est des obligations et tout, moi ça me va. Hein.
Et la NBA, bien consciente notamment des priorités en ce moment, tape sur les doigts de Wemby en disant il faut que tu ailles voir les médias, etc.
Oui, bah ça doit être contractuel, je sais pas comment c'est écrit leur truc, mais voilà, c'est clair.
Pour son premier match éliminatoire en play-off dans sa carrière,
bien.
Je tiens.
Bien.
Pardon, mais
super.
La première mi-temps de Wemby au secours.
Il donne le ton, il agresse, il met des gros 3 points d'entrée, il lead un peu les siens. Et en deuxième mi-temps, il est effectivement beaucoup plus discret en attaque, mais son troisième quart en défense.
Ah, bah le fadeaway de Chet, il est renvoyé au 8ème.
Non,
rang.
Non, et puis même tous les tirs, ça passe pas, les rotations de fou furieux. Enfin, non, le rebond protégé. Non, c'est. C'est un très très bon game 6. Hein.
C'est ça, c'est que c'est pas forcément le 40 points, 20 rebonds
non.
du game 1, mais il faut comprendre que la première mi-temps de Wemby, si vous
bon
pouvez la revoir, lorsque ces Spurs, en fait, doivent compter sur leur leader, on attendait une seule chose, c'était que quand tu as un match aussi important, ton meilleur joueur doit donner le ton.
Oui.
Tu ne peux pas mieux donner le ton que Victor sur le premier quart temps. Il y a quoi, 13 points, 5 rebonds, 2 contre ou un truc comme ça là.
Ouais,
la totale.
C'est mortel. Mais en fait, ce qui est super avec ces Spurs, c'est que genre, dans un game 6, à élimination, où leur trio, leur Big Three déjà actuel et du futur n'a zéro expérience, les trois ont été bons.
Ouais.
Hey, ce Wemby, très bon match. On a vanté Harper, pardon, le match de Castle. Hein. Parce qu'en plus, lui, défensivement, c'est pas des petites missions qu'on lui envoie. Hein.
Non,
donc,
moi, j'ai adoré.
En plus, il a fait gaffe à la balle, là, en plus. Donc, non, vraiment, c'est un très bon match. Il a pas croqué. Il a été chercher pas mal de lancers. Enfin.
Ah, le 5 avec, je te dis, le 5 dans 3ème quart avec.
Il a distribué des passes d'aise.
C'est ça.
Enfin, oh là là là.
Le
5
dans
3ème match d'Harper. De Harper, oui, et de Castle.
J'adore, exactement, tu fais bien de le dire. Sur le 3ème quart, il y a des moments où en fait Castle voit que sur le parquet, il va être avec le 5, Keldon Johnson, Luke Kornet. Donc il n'y a pas Victor. Faut aller agresser, chercher des points. Il se prend des torgnoles de Lou Dort. Il va chercher des ones sur Jane Williams. Il a ce côté folant de Castle, tu sais, lorsqu'il commence à pénétrer. En plus, il a des pas un petit peu unorthodoxes, comme ils disent là-bas. Et même quand Dylan Harper, je crois, juste une fois, récupère la balle en semi-transition et a hésité à aller punir, et Castle, il le prend par le callback.
C'est
il lui
bien.
Fait, mon gars,
c'est super.
Mon gars, tu vas foncer. Et les trois actions suivantes, c'est de lancer de Dylan Harper.
Lui et Wemby, c'est des leaders aussi. On oublie. Hein,
ah,
ouais, mental. Hein.
Ah,
c'est non, c'est super. C'est un grand match, match collectif des Spurs avec le Big Three de stars qui est au niveau pendant que deux gros joueurs offensifs manquent à OKC et Shea manque, lui, son match.
Ouais.
Donc... On verra, parce que là, Jalen Williams a été essayé 10 minutes. On verra s'il peut revenir pour le Game 7, qui est donc dans 2 jours.
Oui.
On verra. AJ Mitchell, ça pue. Hein. Franchement, ça pue. Hein.
Franchement, ça pue.
Il
n'y
a
fois.
Pas de nouvelles non, mais... trop. On n'a pas eu d'update. Sur les injury reports, ils nous laissent en game time. Bah, mais...
Non, c'est chaud. Hein. On va parler de ce Game 7 dans quelques secondes. Avant ça,
vas-y.
Petite transition, mesdames et messieurs. Vous l'avez peut-être vu déjà un petit peu partout. Et on vous le remontre ici. Est-ce que vous avez récupéré votre cahier de jeu Trash Talk ? Très fier avec Simon de vous offrir le volume numéro 2 qui est disponible en premier commentaire de cette vidéo. Si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, en vacances et que
voilà.
Vous voulez répondre à des grandes questions comme je dis n'importe quoi, un mot croisé avec les MVP des finales.
C'est sympa ça.
Ça c'est très très beau. Tu vois, par exemple, tu peux mettre en deux horizontales le papa de Bronny.
Ouais, ok, le papa de Bronny.
Ça peut peut-être te donner une idée. Si vous voulez, par exemple, mettre des surnoms aux bonnes personnes, sauf qu'on a traduit en français. Par exemple, Alex, le rêve, c'est qui ?
Hakeem Olajuwon.
Ah, on est pas mal. On est pas mal.
Voilà.
On a les deuxièmes prénoms aussi, si tu veux. Est-ce que tu sais quel est le deuxième prénom de la Melo Ball ?
La France.
Absolument.
Ouais.
Bon,
ah bah attends,
Alex,
hey,
il est chaud. Alex,
bah moi,
il est chaud. Hey, culture
hey,
G, culture hey, G. Voilà. Vous pouvez le récupérer. En tout cas, il y a toutes les folies et bêtises de Simon et de Bibi. On s'est régalé. C'est avec les copains de Hugo Sport, Hugo Publishing. Donc voilà, il y aura une de ces deux équipes, Spurs ou Thunder, qui sera en vacances dimanche matin. Prenez votre cahier de jeu Trash Talk. C'est parfait pour l'été.
Ouais.
Voilà. Sur cette magnifique transition.
Game 7.
Game 7. Attends. Je pose le contexte.
Vas-y.
1. c'est à 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Donc les gens qui aiment le sport samedi,
ça va, petite journée.
Kwame, troisième tour, finale de Ligue des Champions, Game 7 Turner Spurs.
Propre.
Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire. Je sais qu'il fait très chaud. Nous, vous achetez des glaces à Antello.
Moi, je suis en brocante hein, toute la journée. Hein.
Deuxième donc, chose, si vous vous attendez à ce qu'on soit sur les canapés dimanche matin,
ça ne sera pas le cas.
Ce ne sera pas possible, puisque avec Alex, on sera, et avec Nora, avec Robin, et avec les copains de SoFoot, on sera à Lille pour l'incroyable Brocante Sport.
Ouais.
Il y aura, ceci étant dit, on est en train de bosser sur le setup, un débrief sur place.
On va se débrouiller. On va voir comment. Ça sera sûrement pas Léonce à la prod. Donc,
ce sera Bibi.
Faudra être indulgent. Faudra être indulgent.
C'est ça.
Mais on sera avec vous. Mais on sera là.
Exactement. Le game set, Alex, pour remettre juste un peu de contexte et ensuite tu pourras nous donner ta vision, ton analyse et on fera une partie prono. Premier game 7 de finale de conférence Ouest depuis 2018. Le fameux Rockets Warriors. 27 tirs à 3 points loupés par les Rockets.
C'est vrai.
Au secours. Chris Paul et la cuisse. Golden State qui fait le travail, etc. Vous voulez reparler de Game 7 pour OKC 2016, mène 3-1, 3-3, on revient en Game 7 et Golden State l'emporte après l'énorme Game 6 de Klay Thompson et l'emporte en Game 7 justement sur le parquet des Warriors.
Après.
Tout à fait.
C'est des bons souvenirs à OKC tout ça.
Exactement. Les récents Game 7 de finale de conférence ont été aussi remportés pas mal à l'extérieur. On avait Boston qui avait battu Miami en 7.
Oui.
On a vu pas mal de choses là. Quand tu observe ce Game 7, Alex, ce samedi.
Bucks Celtics, c'était une finale
demi-finale de conf.
C'était une demi de conf.
Avec Grant Williams.
Ouais, et puis Tatum au Game 6.
Tatum Game 6 à Milwaukee. Grant Williams Game 7, c'est à Boston.
Ouais, c'est ça.
C'est marrant que tu mentionnes ça, j'allais te lancer. Quand tu regardes ce Game 7, il y a toujours, toujours, un héros qui sort du lot. Il y a très souvent, au-delà des stars, quelqu'un qui rentre dans la légende de la NBA parce que c'est Grant Williams, parce que c'est Kelly Olynyk, parce que c'est des gars qui font le travail à ce moment-là. C'est quoi d'abord, avant de parler de Factor X, c'est quoi ce que tu as observé le plus sur le Game 7 de Thunder Spurs ce samedi soir?
Pff, tellement de trucs.
Voilà, bon courage.
J'aurais préféré que tu me demandes mon pronostic, hein. J'étais vraiment emmerdé. Non, mais...
Après, tu peux si tu veux dans
les ordres. Non, mais plus sérieusement, ouais, je vais observer beaucoup de choses. Je pense que, genre, chez Gigus Alexander est en galère, il a passé lieutenant, la défense le cible, il doit réussir un grand début de match agressif. Il n'a pas eu beaucoup de lancers au Game 6 à l'extérieur. Il aurait honnêtement, une fois n'est pas coutume, hein, je sais que gna, l'arbitrage, tout ça, OK, ici et tout. Bah, franchement, moi, je trouve qu'il aurait pu avoir plus de lancers. C'était à San Antonio, les Spurs, voilà. Les petites polémiques du match d'avant, je pense qu'elles ont de l'effet. Je pense qu'il aurait pu avoir un petit peu plus de lancers. Ça n'aurait pas changé forcément grand-chose à ce match, mais voilà. Je vois bien, il faut un gros début de match. Donc, gros début de match de Shea, ça, je vais surveiller. Ensuite, je pense que les Spurs sont à l'extérieur. Les Spurs jouent le tenant du titre. C'était pas vraiment favori avant la série. Ils n'étaient pas non plus tout en bas dans les cotes et tout. Mais voilà, les Spurs ont envie d'être dans le match. Ils ont envie d'être dans le match. Ils ont envie d'avoir un match serré et que ça traîne et de se dire si on arrive dans le quatrième quart et que c'est serré, on va faire des prises à deux de fou malade sur Shea. Il va pas pouvoir prendre un tir. Il va falloir que je ne sais qui sera sur le terrain. On verra ce que Daigneau mettra, mais il faudra que ce soit un autre gars qui nous punisse. Et du coup, ils peuvent le faire. Alors que nous, de l'autre côté du terrain, on aura Harper, on aura Castle, on aura Wemby. Et puis, ok, ils ont une grosse défense, mais voilà, on peut le faire. Donc, je vais surveiller le démarrage de match de Shea Gilgeous-Alexander, les ajustements tactiques et d'agressivité, d'intensité du Thunder, parce que le Thunder va avoir envie de faire un écart et de faire « Oh !» Le Thunder, ils vont forcément avoir envie de faire « Eh oh !»
Déjà, Victor, il va se prendre un truc dans le premier quart d'heure.
Oui, et puis
c'est normal.
Tactiquement, genre, ils vont essayer d'être ultra agressifs sur Castle, lui faire perdre des ballons. Enfin, tu vois, c'est sûr.
Ils vont être borderline comme jamais ils ont été borderline.
Ils vont vouloir mettre un ton de fou malade.
C'est
et
normal.
Les Spurs sont capables de répondre à ça.
Yep.
Castle, ça lui fait pas peur. Champagny, j'aime bien aussi. Vassell, tout ça. Enfin, tous ces gars-là, ça va pas
Fox,
leur.
Hein.
Même Fox et tout. Donc, l'entame de match, notamment celle de Shea. Et ensuite, capacité des Spurs à quoi qu'il arrive, rester dans le match. Parce que si les Spurs parviennent à troisième quart, début de quatrième quart, à être là, un peu devant, un peu derrière, bah franchement, sur une fin de match serré, ça se regarde très fort.
C'est exactement ça.
Ce que tu veux éviter, c'est le scénario du match 5 où collectivement le Thunder te fout à la race.
Et t'as toujours été à 10-15.
C'est compliqué, t'es tout le temps à 10-15 et ça.
Et t'es jamais revenu à 3.
Ouais, ouais, ça c'est compliqué à aller chercher comme match face à ce Thunder.
Je suis d'accord, c'est vraiment les points à observer. J'ajoute deux petits. C'est peut-être un peu culotté ce que je vais dire et je me demande si tu vas être d'accord ou pas. Mais je pense que. On l'a vu sur cette série. Si les Spurs sont à leur meilleur niveau défensivement, je pense vraiment qu'ils sont un vrai cran au-dessus.
Que le Thunder ?
Ouais.
Que ce Thunder avec les blessés ?
Ouais. Ah, pas au complet. Hein. Pas au complet.
Le problème, c'est ça. On n'en parle pas assez. Genre, mais le quand Thunder lui manque, c'est deux de ses trois meilleurs joueurs offensifs. C'est un truc de fou ce qu'ils sont en train de faire.
Et c'est énorme. Mais tu vois, je trouve que quand San Antonio arrive à faire des vraies, très grosses performances défensives, je pense que si tu prends la meilleure défense du Thunder, la meilleure défense des Spurs, et qu'après tu essayes de voir quelle attaque va plutôt bien fonctionner, tu peux être optimiste si tu es fan des Spurs. Tu peux te dire, franchement, on a des gars qui ont un tel niveau en fait autour de Victor que tu peux t'en sortir davantage que OKC qui fait face à l'absence d'AJ Mitchell, à 30%
de Jalen Williams,
15% 8% de Jalen Williams.
Une absence, quoi.
C'est très dur. Donc je vais surveiller ça. Ça veut dire aussi que on a tous nos jumelles pointé vers chez Gidius Alexander, mais tu sais que Chet Holmgren, moi je l'attends très très fort parce qu'on sait à quel point ce Thunder est très fort quand il est offensivement impliqué et qu'il ne nous fait pas un match de je sais pas à quoi le comparer, mais tu vois.
Ah,
où tu
il a du mal à exister, hein, c'est compliqué, il se bat,
mais quand il est là, c'est très fort. Et du coup, oui, tu fais bien parler de fin de match serré parce que ça reste la kryptonite un petit peu de ce Thunder, c'est-à-dire qu'on a vu les Pacers l'année dernière se retrouver dans une situation plusieurs fois dans la série où match serré, on a les gars avec les reins un peu plus solides malgré la jeunesse des Spurs, hein. Ils sont capables et OKC de flancher offensivement dans la fin de match et en face de laisser des espaces,
surtout ce OKC là, je le répète, sans AJ et Jalen Williams pour aider Shea et avoir un deuxième gros ball handler tout le temps sur le terrain. Là, en fait, il y a quoi ? C'est Kesson Wallace, le deuxième gros ball handler. Chet, il essaye un peu, petite feinte de tir, j'essaie de dribbler vers la ligne de lancer.
McCain n'est pas un ball handler, mais il a beaucoup les mains sur
McCain
les fins de ses possessions.
Tu vois, mais en gros, pardon, mais juste...
Et
ça se trouve, il va y avoir une bonne surprise côté Thunder avec un Jalen Williams qui peut vraiment un peu plus jouer.
Ouais,
mais ça serait déjà pas mal.
Un gars qui sort du lot, un Kenrich, etc. C'est ça que j'allais te demander. Si t'avais un facteur X, un mec où on revient dimanche et on dit putain, Alex, il l'avait call, c'est l'Andrew Wiggins game, quoi. Il y a un gars que tu surveilles comme ça.
Côté Thunder alors ? Moi, c'est Kesson Wallace du coup. Moi, si je suis Daigneau, et en fonction de comment le match avance.
Il a pris combien de minutes là, Kesson
Wallace ? Je donne plus de minutes à Kesson Wallace encore.
Il en a 20. Hein.
20, j'y vais plus et je lui fais porter la balle.
Il a peut-être plus de minutes que Lou Dort.
Ouais. Ouais, je sors plus vite Lou Dort et je dis vas-y, Kesson Wallace, les tirs, tu les prends, mais surtout, dès que tu vois que Shea va être pris, va être coincé, tu viens, tu te présentes et tu vas te retrouver avec un adversaire sur toi qui est peut-être jouable, t'y vas, tu me l'essayes, tu lui shootes sur la tronche, tu essaies de me le driver, tu me l'agresses, tu vas sur la ligne de lancer, j'en sais rien. Vas-y Kesson, c'est pas AJ Mitchell offensivement, parce que l'avantage c'est qu'en plus Kesson Wallace, il y a pas de souci, hein, de l'autre côté du terrain tu peux l'utiliser, c'est pas un problème, c'est pas comme si tu le mettais sur le terrain et que l'autre côté c'était une cible, hein. Kesson Wallace il est compliqué, il est fort, hein, il est fort sur l'homme, il se bat bien, il se laisse pas faire, il est pas très grand mais il est bien athlétique, enfin, donc moi à titre perso je mettrais Kesson Wallace en facteur X. Je pense que Kesson Wallace peut être une clé avec les tirs à 3 qui rentrent comme dans le match 6 là, et tu lui donnes un tout petit peu plus la balle pour soulager Shea et que ça soit pas Lou Dort ou Kenrich Williams ou Jalen Williams qui sont obligés de prendre des décisions, mais Kesson Wallace et ou Chet Holmgren. Genre tu m'organises des pick and roll à l'opposé, tu m'organises des pick and roll Chet Holmgren Kesson Wallace.
Ah ouais.
Pendant que Shea, ils sont obligés de tu vois, des choses comme ça.
J'étais à deux doigts de surveiller Monsieur Harrison Barnes, mais le temps de jeu va être trop faible. Mais tu vois, c'est le genre de Lascar qui peut avoir un quart d'heure, 18 minutes, un peu décisif. Mais sinon, non, moi j'avoue et je pense que c'est le match où De'Aaron Fox sort de sa boîte. Quoi.
Pourquoi pas ? Ah putain, ça serait incroyable.
C'est le match de De'Aaron Fox où il sort de sa boîte. C'est le match à 20 points, tu vois.
20.9 passes là.
À 20 points, ouais, 20.8 passes avec 7 lancers francs provoqués où les fins de match elles ont été bien gérées.
Petit mid-range qui va bien quand il faut là.
Ouais, qui roule autour de l'arceau et qui rentre quand il y a 101-99 avec 35 secondes à jouer, tu vois. Bon, si ça se trouve, il va chier dans la caisse et ça va être comme ça, mais.
Bon, et. Qui va en finale ? T'avais dit Thunder, tu restes ?
C'est le moment le plus c'est le moment le plus dur de la saison. Je suis désolé, mais c'est mon moment le plus difficile parce que le cœur, les tripes. Tu te doutes bien que moi j'ai envie que les Spurs réalisent l'histoire. Là, gagne ce match 7, qu'on soit en slibard. Moi, je vais prendre le train pour Lille, je vais te dire attends.
Est-ce que ton expertise, hein, est-ce que du haut de ta grande expertise, tu te dis ils vont le faire? Voilà.
Je vais me porter un cœur et je vais rester sur mon pronostic 4-3 Thunder.
Il veut gagner dans tous les cas.
Non, mais
bah si. Si le Thunder gagne, t'auras dit le bon pronostic. Si le Thunder perd, t'auras les Spurs en finale. Bien joué, j'aime bien.
Au-delà
j'aime
de m'en battre les reins d'avoir raison ou pas raison, c'est juste que non, je pense que sûr. C'est, je pense vraiment que j'en sais putain de rien. Franchement, je suis désolé,
c'est
j'en sais rien et en fait,
c'est compliqué.
C'est très très dur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas, auxquelles on peut pas s'attendre. J'en sais rien. Moi, si ça se trouve, c'est un match où Kenrich Williams te plante 4 tirs à 3
ça
points
trouve,
et,
Mitchell,
là, et la profondeur du banc du Thunder, on fait mais tain, c'est vrai que les gars, Caruso, le mec qui défend sur Jokic, t'en souviens le Game 7 l'année dernière, puis il y a le mec qui nous fait une masterclass contre Wemby et tout. Toi, tu dis les Spurs l'emportent à OKC?
Oui. Oui. C'est vrai. Oui, moi je pense qu'on assiste à la naissance d'une équipe. Genre, ça se trouve, la dynastie.
À la confirmation.
La dynastie, ça se trouve, c'est pas le Thunder. Ça se trouve, c'est le Thunder. Ça se trouve, ils vont me fermer ma bouche, ils vont faire Game 7. Et puis après, faudra se les faire, les Knicks en finale. Hein. Attention, on en reparlera le moment venu. Oui. Mais genre, ça se trouve, la dynastie, c'est pas le Thunder en fait. Ça se trouve, la dynastie, elle joue en noir et blanc, quoi. Voilà, point. Ouais. Ça se trouve, voilà, on assiste.
Il y a ce sentiment-là.
On assiste à une campagne de playoff où on se dit, oh putain de merde.
Je t'en avais parlé dans la. Je crois que c'était la vidéo précédente par rapport à. Ce comparo avec le Magic de la moitié des années 90 qui arrive pour une première fois en finale NBA face aux Rockets et où c'est assez connu, Kenny Smith, Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler disent à la mi-temps du match 1 il faut qu'on remporte celui-là parce qu'après les gars, si ça se trouve, ils vont en prendre 6 ou 7.
Ah, je suis le Thunder, je me dis merde.
Les gars, il faut qu'on y aille parce que les Spurs, tu sens qu'en fait les mecs l'année prochaine ils vont revenir.
Le Thunder aussi, hein, je répète,
oui.
deux énormes joueurs blessés. Hein.
Oui. Et moi là j'ai parlé du Magic, les mecs, tout le monde a dit qu'ils allaient remporter 5 titres l'année suivante, ils buvaient des piña colada à Los Angeles le chat.
Après ils ont eu les Bulls de Jordan 72 win.
Bien sûr.
Après les mecs ont pas voulu payer le chat au max. Hein?
Oui.
Il y a ça aussi.
Il vaut pas 100 millions.
Là, imagine dans 2 ans. Oh non, mais pas le max à Wemby.
Là, c'est cet été.
Oui, c'est cet été, pardon. Parce que c'est pas dans 2 ans, je dis n'importe quoi. T'imagines? Hein? Non, ça n'existe pas. À l'époque, le Magic, c'est quand même ce qu'ils ont fait.
C'est un match remporté par les Spurs en 48 minutes ou plus avec plaisir?
Non, serré en tout cas. Moi, je vois pas les Spurs gagner facile. Alors, si c'est le cas, voilà, bonjour, mais non. Je vois un match serré. Un match où ça se rend pas mal les coups, où on connaît la capacité d'ajustement du Thunder qui, je le répète, n'a jamais perdu en playoff après une défaite. Là, les 10 dernières défaites, ils ont gagné après le match d'après. Capable de s'ajuster, de durcir défensivement, de faire chier l'attaque des Spurs et tout. Mais je vois bien aussi la défense des Spurs, comme tu l'as dit, répondre. Et donc un match où les deux équipes sont dans le match et une fin de match qui se joue sur... Je sais pas, Castle, les lancers, Victor.
Victor qui dit, pardon, mais en fait...
Victor qui dit, excusez-moi, le Money Time, c'est pour Bibi. Ouais, c'est pour moi. Et ça, j'y crois. Je crois que c'est possible.
La pression, c'est quoi?
Ouais, non, mais ça, la pression. Et puis de toute façon, en face, Shea, ça lui fait pas peur non plus. En face, t'as des joueurs qui supportent plutôt bien la pression, hein, des deux côtés, en fait. Hein, ça rigole pas du tout. Mais oui, voilà, donc moi, dans le cadre d'un match que les Spurs arriveraient à maintenir serré...
J'aimerais tellement
une victoire des Spurs.
J'aimerais tellement. On se retrouvera déjà devant le match, donc dans la nuit de samedi à dimanche, 2h du matin. Là, franchement, veillez s'il vous plaît. Il n'y a pas à chipoter. Vous prenez un café, vous débrouillez, vous célébrez la finale des champions.
Ça sera peut-être terrible le matin quand même. Entre la journée de brocante entière.
Mais je te confirme. Moi, j'aurai une gueule de zombie, mais ce sera pour ça changera
pour
les 12 dernières années. Ce sera pour la bonne cause. On vous fait des très gros bisous. Évidemment, on se retrouvera pour d'autres petites vidéos. Et puis
déjà,
après,
lundi, il y aura une preview.
Lundi, il y aura une preview de finale NBA.
Knicks contre. Parce que je sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux, les Knicks sont en finale.
Tu crois qu'ils sont
j'ai tellement hâte de voir les Knicks en finale.
Tout à fait.
Pas fan des Knicks, mais alors hâte de voir. Enfin pas fan. J'aime bien cette équipe, mais je suis pas un fan des Knicks. Hâte de les voir en finale.
D'ailleurs, tout à fait. Juste pour la conclusion, ceux qui n'ont pas vu, Mitchell Robinson fracture de l'auriculaire.
Oui. Donc ça c'est
très grosse nouvelle quand même.
Très mauvaise nouvelle.
Ouais.
Il jouera pas les finales.
Ah, là, c'est... Ou alors
il jouera, mais avec un truc sur la main. Mais à mon avis, il jouera pas.
Fracture de l'auriculaire, les frères. Bon, là, j'aime bien Willis Reed, mais.
C'est le petit, là.
C'est le 1, oui, on est d'accord, c'est le 5e.
C'est le petit.
On en fera la preview, on en reparlera. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il jouera quand même.
On va en parler dans la preview. Il mettra un micro autour de la main, ça échangera de ses lancers francs.
Exactement. En fait, techniquement, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste qu'il puisse jouer sans avoir trop mal. Quoi.
Exactement. Sur ce, on fait des bisous. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche et évidemment aux gens du Nord à l'incroyable Grand Sport ce week-end. On fait très gros bisous.
Bisous.
À très
ciao.
Vite.
Ciao. Ciao tout le monde.